nous avons rempli la première partie de notre programme avant cette petite interruption de la semaine passée. J'ai dressé un tableau récapitulatif de la transformation d'ensemble que nous pouvons ramasser sous le concept synthétique de radicalisation structurelle de la modernité. Radicalisation structurelle consécutive à l'ultime étape de la sortie de la religion dans l'espace européen. Radicalisation structurelle qui a métamorphosé les trois dimensions de l'être ensemble caractéristiques de la structuration autonome, le politique, le droit et l'histoire. Il nous reste maintenant à aborder la seconde partie du programme, à savoir élucider la configuration de crise de la démocratie qui résulte de cette métamorphose. La première, la plus simple, la plus manifeste des raisons de cette crise, c'est le retard de la conscience sur la réalité. Nous avons affaire à une nouvelle structure collective et à un nouveau mode de fonctionnement collectif, profondément différent de ceux auxquels nous étions accoutumés, d'où une désorientation, un désarroi qui n'ont rien que de normal par rapport à un environnement dont il s'agit de réapprendre la cartographie. D'où le sentiment si répandu d'une opacité du monde social et d'une immaîtrisabilité de ses rouages. Nous sommes à cet égard dans un moment de creux historique ou de suspens, comme il y en a eu d'autres, face à un monde méconnu, inconnu, que personne ne sait trop par quel bout prendre. Mais il y a plus derrière cet état de fait, somme toute, commun. Il y a que ce nouveau monde social secrète de puissantes illusions à son propre sujet. Il est intrinsèquement trompeur. Il se présente sous des apparences qui en dissimulent la réalité et qui font plus qu'en dissimuler la réalité. Elles dissuadent très efficacement d'aller y voir de plus près. Cela parce que ce monde se donne sous le signe de la maîtrise de ses principes et de ses règles de fonctionnement. Maîtrise politique des principes et des règles du régime représentatif, qui n'a plus de véritables adversaires. J'entends par véritables adversaires des adversaires capables de lui proposer une alternative crédible. Maîtrise juridique du seul principe de légitimité avouable que constituent les droits de l'individu et leur prolongement, au premier chef leur prolongement contractuel, en mesure de définir l'ensemble des liens entre les personnes sur la base de leur consentement dûment enregistré. Maîtrise enfin en ce qui concerne l'orientation historique et la production de l'avenir. Maîtrise des principes et des formes de l'invention technique, du changement social et de la dynamique économique. De ce point de vue, la promesse moderne est accomplie. Nous vivons bien dans un monde régi de part en part selon des principes et des règles relevant de l'humaine raison. Des principes et des règles qui sont les nôtres. Un monde autonome en ce sens. Un monde, certes, où l'application et la réalisation de ces principes et de ces règles demeurent grandement à perfectionner, mais dans un cadre lui-même définitivement trouvé et arrêté. Qui pourrait en concevoir un autre ? Et de fait, l'imagination est à court. Aucune perspective ne se présente, si ce ne sont ces deux vieilles idées pures de la société parfaite que sont l'idée anarchiste et l'idée communiste. Mais l'idée dont le rapport avec la société existante est tellement ténue qu'elle ne mobilise pour finir que des nostalgies oniriques. C'est ce qu'il y a de juste dans le sentiment que tout se passe comme si nous étions après l'histoire. L'histoire avec un grand H. L'histoire comme cheminement de l'invention des formes du monde humain social. Tout se passe comme si, en effet, cette grande histoire était derrière nous. Nous ne voyons plus à l'œuvre de forces de négativité comme celles que pouvait représenter, voici un siècle, la lutte des classes et le mouvement ouvrier. Forces de négativité suffisamment puissantes pour faire levier et promettre de basculer vers une autre société. Après l'histoire, comme le décrivait avec talent inoubliable Philippe Muret, après l'histoire et non pas à la fin de l'histoire. Car ce qu'il nous est donné de vivre ressemble fort peu à ce savoir ou à cette science de soi qui nous était promise par les philosophies de l'histoire. C'est même tout le contraire. Il n'y a rien à savoir puisque les choses sont advenues et acquises telles qu'elles doivent être. Il s'agit dès lors uniquement d'assurer la maintenance, si je puis dire. Ce qui est vrai et qui nourrit ce sentiment, c'est que nous sommes à la fin d'une histoire. Une histoire singulière que nous avions eue l'outrecuidance et la naïveté d'assimiler à l'histoire tout court. L'histoire en général, l'histoire universelle. Il ne s'agissait en fait que de l'histoire interne de la transition moderne, du long passage de la structuration hétéronome vers la structuration autonome, au travers de figures de compromis habitées de tensions formidables. Ce parcours-là, qui nous a occupés en Europe depuis 5 grands siècles, ce parcours-là est effectivement achevé. Il ne reste rien de la structuration hétéronome, si ce n'est à titre résiduel. À cet égard, nous vivons bel et bien sous le signe d'un accomplissement. La décantation de la structuration autonome est parvenue à son terme. Sauf que ce terme ne ressemble pas du tout, mais alors pas du tout, à ce qui avait été anticipé. Il nous révèle un inconnu de nous-mêmes, dans toutes les dimensions. Il nous oblige à mesurer que nous ne savions pas vraiment ce qu'était le politique, que nous n'en avions qu'une idée tronquée, que nous n'avions pas le sens de ce qu'était et de ce qu'impliquait le droit moderne. Et moins encore, l'individu de droit, l'individu construit à partir de ce droit. Nous n'avions qu'une vision superficielle de l'histoire et du social historique, quand cette vision n'était pas fausse. Nous sommes, autrement dit, devant un choix. Ou bien nous campons sur ce que nous croyions savoir, nous nous arc-boutons sur des analyses et des jugements d'un autre temps, et nous nous enfermons dans l'impuissance, avec pour toute consolation des imprécations de plus en plus sonores à l'égard de ce monde qui nous échappe. C'est la consolation du pauvre à usage universel. Et moi, ça fait du bien à ceux qui les prononcent. Il faut avoir la charité de s'en accommoder, en dépit de leur ineptie éventuelle. Ou bien nous acceptons de reprendre les choses à la racine en réapprenant patiemment les éléments de cette langue dont la grammaire a muté. Et ce que nous découvrons alors, c'est que cette prétendue fin de l'histoire, pour ce qu'elle a de vrai, est l'achèvement d'une histoire bien déterminée qui constitue simultanément le commencement d'une autre histoire. Car en plus de nous plonger dans l'inconnu, elle nous plonge dans la dépossession. Une dépossession d'un genre inédit parce que ses ressorts sont cachés. Non pas qu'elle n'ait des expressions manifestes contre lesquelles on peut bien s'élever, mais en vain, puisqu'elles ne sont que la conséquence de causes que les mêmes plébiscites, par ailleurs, sans saisir le mécanisme d'ensemble dans lequel elles s'insèrent, puisque ce mécanisme lui-même demeure dans l'ombre. Mais une dépossession qui ouvre malgré tout sur la perspective d'une autre société possible, en dépit de la puissance extraordinaire de son ancrage, que nous n'allons cesser de mesurer. Une dépossession qui installe nos sociétés dans une contradiction en dernier ressort intenable. Une contradiction portant sur leur principe même. pour l'énoncé d'un mot à titre d'hypothèse directrice, puisque c'est autour d'elle que nous n'allons cesser de tourner, l'autonomie structurelle de nos sociétés les disjoint et les éloigne d'une autonomie substantielle. Telle est, à mon sens, la vraie contradiction qui travaille en secret nos sociétés. C'est ce secret que nous allons essayer d'amener autant que faire se peut au jour et dissiper. Pour rendre tout de suite plus palpable cette proposition générale relativement à l'espèce de théâtre d'ombre que représente le mécanisme de nos sociétés, je voudrais revenir un instant sous cet angle sur le bilan de la métamorphose du politique, du droit et de l'histoire que nous avons dressée. Ce bilan permet d'exemplifier aisément le constat selon lequel nous vivons dans des sociétés dont nous n'apercevons qu'un bout, pour le dire très simplement. Et un bout de surcroît qui nous propose l'illusion que nous maîtrisons le tout. Nous avons vu comment sa métamorphose a rendu le politique invisible au profit de la politique représentative, seule désormais dans la lice. Le politique était ce qui, par excellence, se voyait. Il était même le foyer de l'ostensible par excellence dans la vie collective, en tant qu'instance de domination et de commandement au nom d'une idée supérieure. C'est sur cette base que nous, de très longue tradition, s'est élaborée l'idée du politique. Ce qui domine au nom d'un principe supérieur, quelle que soit la nature de ce principe. C'est par rapport à cette identité classique du politique qu'il faut situer sa métamorphose récente, qui l'a fait basculer dans l'infrastructure de nos sociétés, leur infrastructure instituante et médiatrice pour en procurer la formule complète. Ce basculement dans l'infrastructure a soustrait le politique au regard et à la compréhension commune. Il est l'implicite ou l'inconscient de nos sociétés auxquelles il permet de fonctionner. Il n'y a plus de spontanément visible que la politique. La politique comprise comme expression de la société. La métamorphose ici s'est soldée par une remarquable laïcisation de la politique, pourrait-on dire. Elle s'est entièrement vidée du mystère qu'elle continuait de cultiver au nom de la supériorité confuse ou obscure qu'elle était supposée représenter et qui s'exprimait dans des notions comme celle, au premier chef, de raison d'État, d'autorité. La politique, elle, est supposément transparente. Elle se doit de l'être et d'être maîtrisable de part en part dans ses règles, telles que le droit public les énonce. C'est une part de la signification de l'état de droit. L'état dont les règles de fonctionnement sont de part en part transparentes, soumis qu'il est au principe de droit qui encadre son fonctionnement. Ce rapprochement avec la société que la politique a pour mission de répercuter aurait dû se traduire en bonne logique par un renforcement de la confiance placée en elle par les citoyens. Ils auraient dû davantage s'y reconnaître. Je ne vous apprends rien. C'est exactement le contraire. Il y a là un maléfice dont on ne saurait trop souligner le caractère curieux. On peut résumer la chose d'une phrase. Le divorce de la politique d'avec le politique lui a été fatal. Ce divorce a entraîné son affaiblissement et son discrédit. Au plus profond, la crise patente de la politique dans toutes les démocraties, en tout cas dans toutes les grandes démocraties, il y aurait là à raffiner l'analyse, cette crise de la politique est l'effet de sa coupure d'avec le politique. Elle a d'autres raisons conjoncturelles, il ne s'agit pas de le nier. Mais la raison dernière est celle-là. Elle est une crise de la représentation, à laquelle on ne remédiera certainement pas en rendant les assemblées représentatives de plus en plus ressemblantes à la population, en les transformant en un panel des citoyens ou en un échantillon représentatif de la diversité sociale. Car ce qui est demandé au pouvoir représentatif par la société, c'est aussi, en fait, si obscurément que ce soit, ça ne figure dans aucun programme, de représenter le politique et ses exigences. Nos politiques, notre personnel politique représente bien la société, mais son infirmité, c'est qu'il ne représente pas le politique. L'art le plus élevé de la représentation démocratique étant de convertir et de faire passer dans le langage de la politique, contrôlée par les citoyens, les contraintes et les exigences du politique, en permettant ainsi aux citoyens de s'approprier ce qui permet à leur communauté politique d'exister. La démagogie la plus ordinaire dans les démocraties actuelles consiste précisément à s'exonérer de ces contraintes du politique au nom d'une promesse de proximité aux préoccupations de la base, avec toute l'orchestration de la communication que vous connaissez. Une démagogie dont il faut d'ailleurs souligner qu'elle est bien plus involontaire que cynique chez la plupart du personnel politique, qui ne comprend plus simplement lui-même ce que veut dire la politique comme représentation du politique. N'en ont plus le sens. Il arrive que cette démagogie paye à court terme, d'ailleurs, mais elle est autodestructrice à plus long terme pour le personnel politique. Elle engendre une immense frustration chez les citoyens et une disqualification des gouvernants, tenus paradoxalement pour étrangers à ces préoccupations de la base dont ils se veulent si proches. Plus ils essayent d'être proches, plus ils apparaissent sur une autre planète. Voilà le problème que nos communicants n'ont pas résolu et ils ne le feront pas d'ici demain. On peut faire une analyse analogue, homologue, à propos du droit et de la consécration du principe de légitimité moderne sous les traits de l'individu de droit. Cette consécration, nous l'avons vue, est inséparable du dégagement complet de la formule de la société des individus. La société qui se pose en tant que société, comme constituée exclusivement d'individus de droit. Et nous l'avons vu, elle ne se contente pas de se poser dans l'abstrait comme composée d'individus, elle mobilise très concrètement les moyens d'instituer, de produire ces individus. L'individualisation du social ayant pour contrepartie la socialisation des individus. Le problème constitutif de cette société, c'est qu'elle se rend invisible comme société, en dépit d'une puissance intégratrice et d'une mobilisation de moyens collectifs inégalés, que concrétisent les coûts gigantesques de son fonctionnement. Là aussi, il y a très peu, encore, la société se voyait, pour employer un langage très simple, elle relevait d'une sorte d'évidence partagée en tant qu'englobant impositif, en tant que cohérence collective contraignante. La société s'est évanouie du perceptible, au point qu'il est des théoriciens éminents pour parler de la fin de la société. Et la proposition fait écho à une donnée sensible. Elle a quelque chose qui la rend crédible. Fin de la société, mais au moment où elle est plus décisivement et plus massivement active que jamais. il s'ensuit pour les individus qui la composent une déconnexion psychique de l'individuel et du collectif, génératrice d'une nouvelle psychologie et d'un nouveau type de personnalité dont nous avons, l'année passée, essayé d'approcher les contours. Ces individus y gagnent une indépendance jamais vue dans l'histoire, mais ils y perdent aussi la sécurité fondamentale qui découlait de l'appartenance. Appartenance qui se payait cher par ailleurs, mais qui comportait d'incomparables bénéfices. L'individu indépendant de la société des individus est un individu hanté par la coupure qu'il ressent obscurément avec le principe de son existence, et hanté de ce fait par le sentiment d'une précarité essentielle. Hanté aussi par le sentiment de son impuissance dans sa liberté, qui tient au fait qu'il est sans prise aucune sur ce qui le tient avec ses pareils, qui est hors de sa prise. Pour le dire autrement, la société des individus est une société qui prive ses membres de la possibilité de l'identifier spontanément comme société. Privée de la possibilité de saisir ce qui en fait une société. Cela, alors pourtant, qu'on maîtrise juridiquement comme jamais son principe de composition. Il n'y a plus de mystère de la société, comme on a pu dire, et très bien dire, à juste titre. Il y a des individus dont on connaît exactement les droits. Et il y a des liens qui s'établissent entre eux, selon ces droits, dont on peut déterminer les formes et les règles de manière, en principe, exhaustive. Plus de mystère du pouvoir, plus de mystère de la société, plus de mystère, enfin, de l'histoire. Ce mystère vécu, a été fort bien traduit par de très grands auteurs, ce mystère vécu tenait à l'unité des temps, à ce lien de solidarité ressentie envers le passé et envers l'avenir, à cette union quasi familiale, charnelle, avec les générations passées et les générations futures. Lien qui conférait au devenir dans lequel les acteurs étaient pris, titre de contributeur, obligé, l'allure d'une destinée d'ensemble, que l'on ne pouvait pas ne pas se préoccuper de déchiffrer, d'interroger, comme la clé de la condition humaine au-delà des limites de sa petite existence. Il y avait ce sentiment élémentaire de l'historicité, d'être pris dans un mouvement plus grand que soi, déterminant la place qu'on occupait et les entreprises qu'on pouvait légitimement se proposer à l'échelle de son existence, en grand ou en petit. La radicalisation de l'orientation historique, la décantation complète de son dispositif, ont dissipé de l'intérieur ce mystère de l'histoire, en faisant éclater la continuité vécue des temps. La radicalisation de l'orientation historique a vidé de sens l'idée même d'histoire, avec un grand H, comme totalité du devenir humain, pourvu d'une liaison interne, d'une cohérence, d'une direction, d'une destination. Mesurons ce que cela représente de rupture culturelle. Ce qui a représenté l'expérience intellectuelle et morale majeure de nos devanciers depuis le début du XIXe siècle a disparu. Mais cela sous l'effet de l'approfondissement de l'orientation pratique vers l'avenir qui avait suscité cette perspective. La radicalisation de l'orientation historique a dénécessitarisé, si j'ose dire, l'expérience du devenir. Elle a rendu chaque acteur à lui-même dans son présent, en le délivrant de son devoir de continuité vis-à-vis du passé, et en le délivrant de ses obligations envers les accomplissements potentiels du futur. Certes, il y a toujours, plus que jamais, un acquis du passé qu'il s'agit d'enregistrer et de préserver via sa patrimonialisation. Mais cet acquis du passé ne nous dit strictement rien de ce que nous avons à faire dans le présent en direction de l'avenir. Quant à cet avenir, il ne comporte aucun but, aucun terme, aucune fin qui pourrait nous servir de guide. Il sera différent du présent, bien sûr, par essence. Mais du point de vue de l'action à mener, il sera exactement le même que le présent. C'est-à-dire, effort sans mystère des individus pour mieux vivre individuellement et collectivement. Grâce à la consolidation de leurs droits, d'un côté, grâce à l'accroissement de leurs richesses individuellement et collectivement, de l'autre côté. Vous voyez comment présentisme, individualisme, juridisme, économicisme vont rigoureusement de pair. Rien de spécial à comprendre là-dedans qui nous dépasserait et nous porterait au-delà de nous-mêmes. Nous avons à tirer notre épingle du jeu dans cette configuration perpétuelle, en quelque sorte, ou qui s'imagine pour telle. Il est permis, à ce titre, de parler d'un désenchantement de l'histoire, concomitant du désenchantement du pouvoir et du désenchantement de la société, des désenchantements qui les ramènent, une fois pour toutes, à leur vérité prosaïque ou pragmatique. Et pourtant, il y a bien autre chose d'impliquer dans cette aventure apparemment rendue à sa simplicité et à sa clarté pratique. Il y a autre chose qui se signale au moins de trois façons. Il y a d'abord ce qui résiste à la surface du globe, à la pénétration de cette vérité prosaïque mondialisée. La majorité, sans doute, s'y rallie sans trop faire d'histoire, mais il y a tout de même des refus qui sont là pour nous rappeler que l'humanité a vécu archi-millénairement d'une toute autre manière. Rigoureusement incompréhensible, vu d'aujourd'hui, mais qui devait bien avoir ses raisons, à preuve l'attachement que d'aucuns continuent obstinément de lui porter aujourd'hui. Il y a ensuite que cette simplicité pragmatique est néanmoins animée par une dynamique endogène manifestement suicidaire. Un démon autodestructeur est à l'œuvre dans la machine. On ne peut pas ne pas le pressentir dans cette poursuite d'allure pourtant si naturelle ou si normale du bien de chacun et de tous. Une bizarrerie tout de même assez cruciale pour qu'on s'interroge sur ses tenants et ses aboutissants. Et puis il y a enfin l'impression d'inaccomplissement qui travaille malgré tout, cet agencement collectif auquel on ne voit aucun dépassement ou aucune alternative possible. Il ne fait signe vers rien d'autre que lui-même, c'est acquis. Il rend impossible autre chose que l'accroissement indéfini de sa propre efficacité, qu'elle soit technique, juridique, économique, et cependant, il est traversé par une exigence qu'il est incapable de satisfaire. Autant d'éléments qui rendent cet enfermement tranquille dans un présent dont les acteurs savent en principe très exactement ce qu'ils ont à faire, plus problématique qu'il n'en a l'air. Il n'y a plus de mystère à déchiffrer ou de destin à accomplir, c'est entendu, mais il y a un insaisissable qui enveloppe nos entreprises d'incertitude sur ce qu'elles sont. Il n'y a plus de négativité à l'œuvre de manière ouverte dans nos sociétés, du type de celle que le mouvement ouvrier exemplairement a pu incarner depuis le XIXe siècle, mais il y a néanmoins une coupure d'avec soi, une dépossession vis-à-vis de la vérité du fonctionnement collectif, et une dépossession qui est source de dérèglement considérable. La maîtrise apparente, que ce soit dans l'ordre politique, dans l'ordre juridique ou dans l'ordre historique, se double d'une méconnaissance quant à ce qui organise cette manière d'être et quant à ce qu'elle peut être, qui crée le trouble, l'inquiétude, la frustration. La négativité, en fait, est toujours là, sur un autre mode, sans acteur déterminé. On ne peut la localiser nulle part dans le fonctionnement collectif. Elle est dans l'air, mais elle est là. Sans idée claire de rupture vis-à-vis de ce qui existe, mais non moins agissante pour autant. C'est ce facteur de négativité que nous avons à essayer d'identifier. Puisque nous en étions à l'histoire, le cas de figure mérite d'être un peu approfondi. Il va nous permettre d'abord de compléter ce que je rappelais dans nos séances précédentes et en même temps nous permettre de faire un pas de plus dans l'élucidation de ce mode de fonctionnement foncièrement trompeur qui procure aux acteurs une maîtrise apparemment complète des éléments de leur champ d'action, qu'il s'agisse du mécanisme politique, qu'il s'agisse des règles juridiques ou de la production techno-économique, mais un mode de fonctionnement coupé en réalité de sa nature véritable, de ses enjeux profonds et de sa propre intelligibilité. L'exemple de l'orientation historique, dans ce qu'elle est devenue récemment, fait ressortir avec une netteté particulière la manière dont ce caractère explicite du fonctionnement collectif recouvre le renvoi dans l'implicite de sa dimension symbolique qui est leur part dont nos sociétés sont spécifiquement coupées. Il montre par la même occasion ce qu'est la société de la connaissance qui se développe autour de cette explicitation du mécanisme social. Et il montre à ce propos en quoi la dite société de la connaissance est une société de l'ignorance d'elle-même. Reprenons pour ce faire les trois sphères du rapport au passé, du rapport au présent, du rapport à l'avenir. Trois sphères dont nous avons vu comment elles s'étaient autonomisées chacune comment elles étaient devenues chacune autosuffisantes, mais en s'ajustant parfaitement les unes avec les autres pour constituer ce dispositif de l'orientation historique à base de patrimonialisation du passé, de médiatisation du présent et d'économicisation de l'avenir. Ce qui est important et significatif dans la patrimonialisation du passé, socialement parlant, ce n'est pas la conservation de tel ou tel monument, de telle ou telle série de documents, de tel ou tel savoir-faire, dans ce qu'on appelle désormais patrimoine immatériel. Ce qui est important, c'est l'acte même de patrimonialisation, dans sa double dimension d'appropriation et de neutralisation du passé. Double dimension d'ordre symbolique qui institue le passé comme socle de l'existence collective. Qui signifie, qui produit comme signification, la présence potentielle du passé dans sa totalité, en tant que support de la réalité actuelle, tout en marquant neutralisation, tout en marquant par son objectivation sa distance vis-à-vis de l'actualité et la liberté de l'actualité vis-à-vis de l'héritage de ce passé. Il est avec nous, mais il ne nous commande pas. En quoi le passé patrimonialisé est exactement le contraire de la tradition, dans la rigueur du terme. Le patrimoine vient prendre typologiquement exactement la place qu'occupait la tradition dans la structuration hétéronome. Pour faire exactement le contraire. Il faut les contraster terme pour terme. La tradition est faite pour commander quand le patrimoine est là pour détacher le présent comme domaine d'action indépendant. Nous allons revenir dans la suite du propos sur ce concept de symbolique, concept aussi névralgique que dangereux. Je l'introduis ici dans une acception qui me semble, dans le contexte, suffisamment claire pour qu'il n'y ait pas lieu d'entrer dans son exploration spécifique pour le moment. Cette patrimonialisation est inséparable du développement d'un appareil considérable de connaissances indispensables au fonctionnement de ces institutions de conservation de toute nature. À ce propos, il est permis de parler de société de la connaissance. Jamais il n'a existé une connaissance techniquement aussi poussé du passé, de la préhistoire au passé le plus proche. Inutile de multiplier les illustrations. Il est permis aussi bien de parler d'un rapport réflexif au passé au sens élémentaire du terme de réflexivité. Je vous rappelle à ce propos que l'auteur qui a introduit ce terme de réflexivité dans les sciences sociales récentes est Anthony Giddens, pour désigner très précisément et très concrètement ce genre de préoccupation et cette incorporation de réflexion au sens banal dans le fonctionnement social. Ensuite de quoi, le mot a fait fortune pour finir par être employé absolument à tort et à travers, selon un phénomène d'entropie du vocabulaire que nous avons eu maintes occasions de pointer et qui est en train de ruiner la crédibilité des sciences sociales. Réflexivité, en quel sens? Quand il s'agit du patrimoine, très simplement, on réfléchit avant de démolir. On se tracasse de ce qu'on aurait intérêt à préserver dans un paysage collectif. Quel qu'il soit, on cherche à évaluer la valeur, on cherche à marquer l'intérêt, la signification de tel ou tel bâti devenu fonctionnellement obsolète. Faut-il démolir des usines désertées ou des puits de mine qui ne sont plus en activité ? De tel ou tel paysage menacé par une quelconque intervention humaine. Avant de percer une route, on se demande ce qu'il y a dessous. Et on va chercher les archéologues pour effectuer une reconnaissance préventive. On développe aussi bien une science aujourd'hui très sophistiquée de la conservation des monuments, des documents, des œuvres. Toute la relation à ce qui témoigne d'un passé, y compris le passé le plus proche, le passé en train de devenir passé, est placée sous le signe d'une alerte ou d'une veille permanente. C'est une réflexivité tout à fait nouvelle, on l'a vu s'installer au cours des dernières décennies, et une réflexivité toute pratique. Mais pas réflexivité au sens de la recherche d'une intelligibilité de ce passé. Et même le contraire. Tout se joue sur ce divorce entre les deux acceptions du terme. La patrimonialisation est indifférente à la compréhension du passé, si elle ne lui est pas tacitement hostile. Si, plus profondément encore, elle ne la tient pas tacitement pour impossible. La patrimonialisation repose sur une philosophie ultra-positiviste. La connaissance des faits et des œuvres du passé dans leur objectivité, mot important, s'accommode parfaitement d'une complète insouciance à l'égard de ce qui s'est joué au travers d'eux et de ce que leur distance représente par rapport à notre présent. C'est ce que nous allons retrouver aussi bien à propos de la médiatisation du présent et de l'économicisation de l'avenir. Jamais nous n'avons disposé d'une telle information sur le devenir en train de se dérouler. Mais l'important dans la médiatisation, je ne reviens pas sur la notion telle que nous l'avons bâtie, L'important, c'est l'acte de présentification de la totalité virtuelle de ce qui est en train de se passer. En quoi l'appareil médiatique est l'un des plus puissants dispositifs symboliques de nos sociétés. Pas par les messages qu'il diffuse, à la différence des appareils symboliques du passé, mais par l'accès qu'il garantit, par l'ouverture qu'il ménage, par la présence opératoire qu'il assure aux acteurs par rapport à l'histoire en train de se faire. Il est ce qui nous rend contemporains de l'histoire que nous vivons et faisons. Là aussi, on retrouve une réflexivité mobilisée chez les acteurs par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre. Elle s'exprime naïvement, mais de manière très parlante, dans cette injonction des chaînes d'information en continu. Si vous êtes témoin d'un événement, j'ai pas besoin de vous faire la suite, vous êtes partie prenante d'une histoire qui mérite d'être répercutée. Vous êtes dans l'actualité, ne l'oubliez pas, pensez-y. Traitez-la comme telle. Mais non seulement cette réflexivité n'a rien à voir avec une réflexion sur le sens de l'actualité, mais elle a plutôt, le constat est banal, pour effet d'en détourner, ne serait-ce que par la simple logique du flux qui interdit recul, distance, mise en perspective. Ce n'est pas là non plus, pas de caricature, ce n'est pas là non plus que la compétence technique ne soit pas au rendez-vous, elle l'est. L'expertise foisonne dans tous les studios, sur tous les plateaux. Bonne ou mauvaise, mais ça c'est une autre question. Mais l'objet poursuivi est ailleurs. Il n'est pas de chercher à comprendre, à rendre intelligible le devenir en cours. Il est de l'appréhender aussi précisément, aussi rigoureusement que ce soit, dans son mouvement même, et de s'en constituer partie prenante. Mais c'est dans l'économicisation du présent que ce divorce interne entre connaissance et compréhension est le plus flagrant. L'économie est le domaine d'activité qui mobilise le plus de connaissances pour le moins de compréhension de ce qu'elle est et de ce qu'elle fait. Jamais l'invention et la production du futur n'ont mobilisé autant de connaissances. Le capitalisme systématisé qui se développe en mettant en forme la deuxième révolution industrielle à partir de la fin du XIXe siècle avait représenté un premier pas en ce sens, avec l'organisation scientifique du travail, avec l'émergence des sciences de gestion, avec le développement de la recherche, déjà considérable, mais avec notre capitalisme généralisé de la dernière génération, cette incorporation de réflexivité opérationnelle dans les activités économiques a pris un tour démultiplié. On peut le lire de part en part sous ce signe. Intégration des mathématiques financières dans l'administration du capital. Marketing, communication, en passant par le management et les armées de consultants aujourd'hui à l'œuvre dans les entreprises. Le terme d'économicisation désigne d'ailleurs cette recherche délibérée d'une application d'un modèle économique élaboré, réfléchi, à l'ensemble des activités sociales spontanées. La démarche d'économicisation que nous voyons partout à l'œuvre, dans la moindre des institutions, consiste à repenser l'ensemble des activités au second degré, réflexivité en effet, selon les critères de l'efficacité technique et de l'évaluation marchande, qui prend des aspects très différents, hein, selon qu'il s'agit des indicateurs d'efficacité policière ou de l'efficacité de la recherche. Mais c'est toujours bel et bien du même modèle profond et de la même démarche qu'il est question. Rien n'a objecté, donc, à l'étiquette de société de la connaissance. Elle correspond à une réalité. Une réalité que l'on peut autrement nommer réflexivité, c'est-à-dire le recours systématique à des savoirs spécialisés destinés à optimiser les pratiques sociales par rapport à leur état naïf, improvisé ou coutumier. Et cela vaut pour l'ensemble des pratiques sociales, y compris la vie personnelle, la vie intime, la vie sentimentale, avec son cortège de thérapeutes, de conseillers conjugaux, de sexologues, et ainsi de suite. Mais quelle connaissance et quelle réflexivité? Là est toute la question. Cette connaissance et cette réflexivité sont de l'ordre d'un adjuvant au fonctionnement d'un mécanisme et nullement de l'ordre d'une quête d'intelligibilité, de l'ordre d'une recherche du sens de ces activités ou de l'éclaircissement des raisons d'être de cet engagement collectif. Elles font comme si ce sens et ces raisons d'être allaient de soi, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de les interroger. C'est pourquoi le développement de la société de la connaissance peut fort bien s'accommoder d'une désintellectualisation de la vie collective, d'une perte radicale d'intérêt pour la compréhension de soi, d'une collectivité en profondeur, au profit d'une réflexivité opératoire qui n'a rien à voir avec une saisie intelligible de son propre monde, puisqu'elle se borne à reconduire ses principes de fonctionnement technique, juridique, économiques sans les regarder de l'extérieur et s'interroger sur leur signification. De ce point de vue, il est légitime de soutenir que la société de la connaissance est une société de l'ignorance d'elle-même et de ce qui se passe en elle. Une société dont le mécanisme tend à exclure la réflexivité véritable. Ce qu'on appelait classiquement la conscience de soi, le savoir de soi, à commencer par la question comment sommes-nous arrivés là? Tous ces termes, connaissance, conscience, savoir, réflexion, sont devenus autant de pièges à démonter soigneusement. Ils peuvent être retournés pour leur faire dire le contraire de ce qu'ils disaient classiquement, en traduisant à l'opposé l'espèce d'enfermement irréfléchi en soi, caractéristique du mode de fonctionnement de nos sociétés. Encore un mot sur la dimension symbolique de cette appropriation économique du futur. Elle est capitale à saisir, me semble-t-il, pour comprendre l'adhésion profonde dont bénéficie envers et contre tout un mécanisme social à peu près unanimement critiqué, mais enraciné d'une manière qui donne un sentiment de son caractère invulnérable. Cette disposition structurelle en vue de l'avenir, telle que nous l'avons dégagée, cette organisation collective en vue de l'appropriation économique de l'avenir, pose symboliquement une puissance de se faire symboliquement totale. Elle procure pour horizon à la vie collective la production exhaustive de soi, conformément aux normes explicites et universelles de la pensée abstraite. Soit ce que nous avons caractérisé comme dessein d'artificialisation du monde humain social. Sous les trois aspects connexes de sa juridisation, de sa technicisation et de sa marchandisation. Abstraction juridique, c'est-à-dire redéfinition des liens spontanés à partir des normes explicites du droit moderne, à différents niveaux. Abstraction scientifique, telle qu'elle se concrétise dans les techniques. Abstraction monétaire, pas la moins puissante. Trois manières solidaires de redéfinir au second degré les rapports sociaux, les liens entre les êtres est le cadre d'existence commun selon des normes universellement admises et maîtrisables. Allons un pas plus loin. Ce dont il y va dans cette artificialisation, c'est d'une objectivation du monde humain social qui le rend indépendant de ses acteurs. À cet égard, une objectivation exactement comparable à celle qu'assurait la tradition au sein de la structuration hétéronome. Nous l'avions vu, la tradition déterminait un ordre culturel supposément capable de perdurer à l'identique au-delà de la suite des générations, c'est-à-dire de répondre à cette exigence constitutive de l'être en société qu'est la transcendance temporelle. Il y a société à partir du moment où son organisation dure au-delà de la mort de ses membres. C'est à cet impératif de pérennité que répondait efficacement le principe de tradition, moyennant la mise au-dessus des présents vivants du fondement de cet ordre culturel qui les réunissait, et moyennant son symbolisme explicite attesté dans la ritualité du processus d'institution de l'être ensemble. C'est cela, primordialement, religion, avec tout ce que cela implique de dépossession expresse, ce n'est pas nous. Donc, cela dure au-delà de nous, et opératoirement, ce que cela implique de primauté de l'ordre collectif sur les acteurs individuels. L'artificialisation juridico-technico-marchande vient remplir la même fonction dans le cadre de la structuration autonome, avec cette différence qu'elle est compatible, elle, avec un monde en mouvement, un monde de l'invention lui-même, un monde faisant droit à l'indépendance et à l'initiative des acteurs, un monde posé comme maîtrisable et transformable par ses acteurs. Autonome, donc, en cela. Mais aussi avec cette autre différence, que sa dimension symbolique, au lieu d'être explicite, comme dans le cadre de la structuration religieuse, est renvoyée dans l'implicite, et refoulée même par cette pensée juridico-technico-économique fermée sur elle-même et ne pouvant qu'ignorer par construction cet envers qu'elle comporte et qui est en fait aussi important, si ce n'est plus, que ses effets pratiques. Avec un énorme problème à la clé, qui qui est celui de l'insertion de cet ordre culturel abstrait dans la nature. La structuration hétéronome était, et c'est ce qui la rend difficile à déchiffrer dans beaucoup de ses manifestations, un système à double articulation. Elle reposait sur l'inclusion de l'ordre humain dans la surnature. Ce qui fait l'ordre humain est au-dessus de l'ordre humain. En quoi cette inclusion dans la surnature valait inclusion dans la nature? Une articulation doublée d'une seconde. L'affirmation explicite de la spécificité de la culture humaine à l'intérieur de la nature surnaturelle, si je puis dire. D'où d'ailleurs la double description sans cesse à laquelle on revient, dans une contradiction qui n'en finit pas, mais qui n'en est pas une. C'est une articulation dans la description de ces sociétés entre leur caractère cosmique, inclusion dans une nature surnaturelle, et d'autre part l'insistance qu'elle place à tous les moments sur la démarcation de ce qui fait l'ordre humain par rapport à un ordre naturel. Démarcation dans l'articulation, dans la liaison. L'organisation autonome, dans ses développements radicaux d'aujourd'hui, on le voit assez clairement, pose, elle, cette spécification du monde humain sous forme d'une artificialisation, c'est-à-dire d'une extériorisation matérielle et intellectuelle par rapport au monde naturel. Et une extériorisation aveugle dans sa dynamique, sur sa nature et sur ses limites. C'est en ce point que le problème écologique posé à nos sociétés a sa racine la plus profonde. Elle se rattache au symbolisme inconscient propre au mode de structuration autonome. La maîtrise interne vers laquelle fait signe ce mode de structuration autonome sous l'aspect de la juridisation des rapports sociaux, sous l'aspect de la technicisation du cadre d'existence ou de la marchandisation de la vie sociale, est le véhicule de cette construction symbolique dont on mesure qu'elle est au final suicidaire vis-à-vis de cette ultime condition de possibilité d'une société humaine qui est de s'insérer dans un cadre qui, dans tous les cas, même si elle le transforme, n'est pas elle. L'autonomie, dans son concept le plus radical, ne saurait être un enfermement autiste dans l'artifice humain. Elle peut être beaucoup de choses, mais pas ça. Cette limite radicale a la vertu de signifier de manière tout à fait claire les limites de ce mode de fonctionnement en général. Il est foncièrement problématique du point de vue même de l'idéal d'autonomie qu'il incorpore et qu'il concrétise dans une certaine mesure. Il rend possible d'envisager cet idéal, mais il ne se confond pas avec lui. Et davantage, il est susceptible de lui tourner le dos. Si nous reprenons nos trois entrées de la nouvelle organisation des temps sociaux, passé, présent, avenir, la mise à disposition du passé au travers d'un appareil de conservation ne dit pas aux acteurs qui ils sont. Il est certain que nous ne reviendrons pas à l'identité généalogique qui faisait dépendre l'identité des acteurs du rattachement à une lignée, plus ou moins mythologique. Mais, une fois évacuée cette dimension généalogique, nous restons cependant tributaires, formés par une histoire dont nous avons besoin de nous rendre compte. Qu'est-ce qui nous a formés ? Autrement, nous sommes habités par un passé qui nous détermine tout en nous échappant. L'exigence d'être au clair avec ce dont nous sortons, elle est indépassable, quand bien même, en effet, le passé a cessé d'être un commandement. Pour ce qui concerne la médiatisation du présent, inutile de s'y étendre. L'appareil d'information nous met en prise sur le présent, et d'une manière dont nous ne saurions probablement plus nous passer. Mais il ne nous permet pas de comprendre ce qui se passe. L'appareil de production de l'avenir nous garantit que nous allons vers un monde mieux conforme aux règles et aux aspirations de notre esprit, mais il ne dit pas quel monde au juste. Et non seulement il ne nous dit pas quel monde au juste, mais il peut produire un monde fort éloigné dans son fonctionnement de ce que ses règles et ses idéaux voudraient. Et surtout, pour commencer, il ne nous donne pas les raisons de ce dessein que nous poursuivons par rapport à d'autres possibles. Autrement dit, et c'est sur le terrain de l'organisation des temps historiques qu'il faut le juger, nous ne pouvons pas nous passer d'une pensée de l'histoire, une vraie réflexivité, celle-là, capable de situer nos entreprises et de les orienter. Comme quoi, la radicalisation de l'orientation historique peut être le contraire de l'histoire faite en connaissance de cause. Nous faisons plus que jamais l'histoire, et nous voulons la faire à tous les moments et sur tous les modes. Nous savons cependant moins que jamais l'histoire que nous faisons Et même, nous la faisons d'une manière telle que tout se passe comme si nous voulions l'ignorer. Il y a là une contradiction qu'il faudra bien finir par lever. Ce n'est là qu'un exemple, parce qu'on peut envisager le problème dans d'autres dimensions, mais il est là pour nous montrer que une fin de l'histoire qui ne sait pas de quelle histoire elle est la fin n'est sûrement pas le dernier mot de l'histoire.
Je crois que nous nous taisons parce que c'est apocalyptique. On est dans une impasse absolument complète. Alors, est-ce qu'on peut vivre longtemps comme ça, en poussant notre affaire, par le temps, ou est-ce que cette espèce d'impasse, notamment ce que vous avez dit à propos de l'extériorisation de la nature, fait que le temps que vous nous avez laissé pour retrouver et inventer quelque chose sera un temps assez court.
La brièveté de ce temps, j'en suis assez convaincu. Mais je crois que le sentiment d'impasse, normalement, au lieu d'être décourageant, devrait être plutôt une stimulation. Généralement, quand on est dans une impasse, dans la vie habituelle, on recule, on essaye d'en sortir. Ce qui serait extraordinaire, c'est qu'une nouvelle psychologie fasse que quand on est devant, dans une impasse, on continue. Normalement, c'est pourquoi, personnellement, je n'ai pas une perception apocalyptique de la situation. Je crois en effet que le sentiment très commun, d'ailleurs, est « ça ne peut pas durer », sauf que on ne sait pas par quel bout prendre le problème. C'est toute la question à laquelle on ne sait pas prendre par quel bout le problème, parce que je crois que nous n'avons pas les idées claires sur ce qui est. Pour avoir pris sur ce qui est, il vaut mieux savoir en quoi ça consiste. Et on a l'impression, justement, de démagogie facile qui prennent le problème par un bout qui n'a aucune espèce de pertinence, en général. Donc, je ne crois pas qu'il faille faire de cet horizon assez dramatique, en effet, au milieu du confort inégalé dont, dans l'ensemble, nous pouvons jouir, un facteur de démobilisation, mais plutôt le contraire. La question est de savoir, comme dans d'autres périodes historiques, comment émerge dans une société à la fois une démarche de compréhension de ce qui se passe et une capacité de projection par rapport à ce diagnostic. Là, nous sommes dans un trouble et une incertitude profonde, c'est certain, qui est renforcé par la dimension, c'est ce que je voulais faire ressortir, très spécifique à notre société. La plus grande difficulté, c'est que ce sont des sociétés cultivées, des sociétés de connaissances, des sociétés réflexives en un certain degré, sauf que l'essentiel de cette éducation, de cette culture, de cette réflexion, va dans le sens de la perpétuation d'un mode de fonctionnement fermé sur lui-même et aveugle à ses propres raisons d'être. Donc ça, c'est ça qui fait la difficulté redoublée par rapport à ce que nous avons pu connaître dans le passé, où, en gros, l'idée de tous les réformateurs sociaux depuis le XVIIIe siècle était assez simple. Le mouvement ouvrier en a été le dernier prolongement. Élevons le niveau de conscience des masses, ben, faisons prendre conscience de ce qui se passe, et les choses se régleront, pas forcément gentiment, mais d'une manière assez logique. Là, c'est à l'intérieur même de cette connaissance, de cette réflexion que mobilisent nos sociétés, qu'il faut opérer le tournant. Pas simple, évidemment.
Et en d'autres termes, est-ce que la religion ou les religions ont dit leur dernier mot?
Une des réponses possibles à cette impasse dont nous venons de parler, c'est effectivement les religions. Il ne faut pas se dissimuler cette éventualité. Elle existe. Il y a une réponse simple à cette question. Celle que nous avons déjà éprouvée. Elle a montré sa solidité par le passé. Devant un désespoir complet quant à la marche de nos sociétés, et devant le fait que cette marche commence à produire des dégâts considérables, nous n'y sommes pas encore. Ça, c'est la phase. Nous sommes dans une crise politique, dans toutes les démocraties, c'est un fait, mais en gros, nous sommes dans des systèmes politiques qui marchent à peu près. Mal, mais ils marchent. Nous sommes dans... En effet, il y a une dérive économico-technique très préoccupante, mais on a l'impression qu'on est encore au stade de limiter les dégâts, et ainsi de suite. Mais ça peut changer. Ça peut échapper sérieusement à la maîtrise que nous conservons relativement. Et à ce moment-là, l'alternative est en effet entre la restauration de l'hétéronomie et le pas supplémentaire, mais qui demande un gros effort. La concurrence est très inégale. Dans un cas, vous avez une solution qui a fait ses preuves et qui ne demande pas beaucoup d'efforts d'imagination, parce qu'elle est disponible. Et dans l'autre cas, vous avez un vrai travail collectif de reconsidération en profondeur d'un mode de fonctionnement qui a des vertus immenses et des problèmes tout aussi grands. Et évidemment, la concurrence est inégale. Donc, aucun déterminisme ne préside. Là, on verra à l'œuvre une liberté dans l'histoire. Et rien ne permet a priori de faire un pronostic sur l'issue de cette bataille. Elle est l'éventualité de fait devant laquelle nous nous trouvons. J'ai, par inclination personnelle, et la tentation de... Mais c'est la déformation professionnelle de l'intellectuel, si je puis dire, qui tend à croire au pouvoir des idées. Faut s'en méfier, faut se méfier de soi. J'ai tendance à penser que la vitesse acquise d'un processus qui a quelques siècles derrière lui est plus forte dans le monde occidental. Question supplémentaire. Mais je suis conscient de la fragilité de la fragilité de la position et de l'ampleur du changement que réclamerait la réforme intellectuelle et morale qui est devant nous, pour employer une expression reçue, qui s'appliquait à une échelle bien moindre. Je vous en prie. Parlez fort parce que je ne vous entends pas.
La société de connaissance, alors qui a dit ça, qui a dit ce terme comme société de connaissance, je voudrais savoir qui a dit ça et pourquoi ça, et parce que c'est plutôt une représentation un peu fausse, parce que c'est à cause de l'absence de connaissance générale, connaissance entendue dans le sens, comment dire, général et du terme, connaissance vraie. Alors, il n'y a pas à cause de cette absence de connaissance vraie qu'on est arrivé à là. Et voilà, et premièrement, ça, qu'est-ce que vous pensez? Deuxièmement, j'ai une remarque, parce que, ah oui, c'est vrai, alors, il fallait aussi, je pense que c'est, à part des académies occidentales, il y a des grandes populations qui sont encore pires qu'au niveau de... de l'hypocrisie, tout ça. Alors que dans les études, soi-disant les aires culturelles, à l'université occidentale, c'est seulement des grandes populations, c'est seulement deux, trois, je ne sais pas, des grandes populations qui sont à rien, qui nous apprennent seulement un mensonge, contrefaçon, tout ça. Alors qu'au lieu de ça, il fallait adresser à des petites populations du monde qui ont des connaissances. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez?
Alors, les... Alors, sur l'origine de cette notion de société de la connaissance, elle est ancienne, hein. Elle remonte, à ma connaissance, au début des années 1970. On la voit apparaître à ce moment-là. Elle vient des États-Unis. Et de toute une réflexion, à l'époque, la sociologie américaine était très vivante, hein, et c'est une, ça vient de sociologues américains et de praticiens du management. Du côté des théoriciens, à ma connaissance, l'un des tout premiers à employer l'expression est Daniel Bell. Dans tous les travaux préparatoires qu'il a fait pour un livre qui est paru un peu plus tard, dans les années 70, qui a lancé un concept qui a fait fortune, la société post-industrielle. La société post-industrielle, c'est précisément la société où les activités de conception, au sens très large, prennent la place, c'est l'analyse qui propose, des activités de production. Et de fait, c'est ce qui va... Alors, un autre auteur qui a popularisé la notion dans le monde des entreprises et de la pensée du management, un très bon auteur d'ailleurs, bien que d'une portée essentiellement pratique, c'est Peter Drucker, donc, qui a fait autour de ce thème une... qui a eu des effets pratiques énormes, hein, puisqu'il a... Ce sont ces notions qui ont très activement contribué, peut-être d'une manière un peu insuffisamment réfléchie, à la désindustrialisation de nos pays. Avec l'idée que tout ça, c'est fini. Ce qu'il faut faire, c'est la connaissance, la matière grise, et tout ce qui va avec. Il y avait beaucoup de vérité là-dedans, pratique. mais néanmoins un diagnostic un peu hâtif sur la manière dont ça pouvait fonctionner, on en paye le prix. Alors, je ne suis pas très sûr d'avoir entièrement compris votre deuxième question, mais...
C'est juste une remarque, c'est bon, s'il n'y a pas de... La réponse n'est pas de problème.
Le, non, d'un, une remarque, que, ce que j'en comprends, et qui me semble très juste, c'est qu'en effet, dans cet élan occidental, on a, il y a eu un péché très habituel d'ignorance du monde dans lequel on allait faire basculer des populations pas forcément très préparées au sort qu'on leur réservait, avec des conséquences en retour que, dont là aussi on aurait pu anticiper certains effets. Ça. Je vous en prie.
Je dirais un paradoxe. Et j'ai l'impression que finalement l'Occident se rapproche de plus en plus des pays qu'elle voudrait civiliser. Ça veut dire, au lieu de les ramener vers nous, et on y va, et même en galopant, vers des cultures que nous méprisons traditionnellement. Bah, la religion des uns, ça vient, la religion, notre religion, c'est impressionnant quand même, l'économie, le poids de la pensée économique dans nos sociétés, de la pensée. Je mets la pensée en tout.
Ben oui, c'en est une.
Mais je me demandais aussi si finalement, et la contestation, on a de la contestation, on a de la contestation dans les actions, dans les actes à l'intérieur, mais on a aussi des contestations à la marge, ça veut dire des pays comme la Grèce, l'Espagne, c'est fixe, comme on disait il y a encore deux ans. Et c'est en faisant, je pense, c'est en faisant qu'il y a des nouvelles théories. Et vont probablement de nouveaux regards sur les sociétés, vont probablement émerger. Nous avons des actions ici, nous avons des actions dans le cas pour la nature. Et je me dis que c'est très bien de réfléchir et d'essayer d'éclairer les concitoyens par les idées, etc. Mais c'est aussi par les actions que quelque chose de nouveau, je pense, va émerger.
Oui, alors. Je m'aperçois en vous écoutant d'ailleurs que j'ai mal répondu, enfin j'ai répondu à un aspect de la question qui était posée et pas à l'autre. C'est-à-dire, quid de cette connaissance? Je ne crois pas qu'on puisse se contenter de dire qu'elle est fausse. Non, elle est vraie, dans son ordre. Il y a une connaissance économique, qu'il ne s'agit pas de nier, il y a une connaissance technique, une connaissance juridique.
Il y a des
savoirs. Oui,
Mais il n'y a pas de pensée.
Voilà. Alors, mais, justement, ça pose toute la question de ce qu'est le vrai savoir, la vraie connaissance, la vraie réflexivité. C'est là-dessus qu'on est sans arrêt dans un piège. Parce qu'il ne s'agit pas de nier le haut niveau de sophistication de la réflexion technique. Oui, réflexion. Je veux dire, je pense qu'il y a des théories économiques extrêmement subtiles. C'est pas niable. Et tout à fait digne de considération et d'intérêt. Mais, justement, quel est le contraire? Nous sommes à la recherche du contraire. Alors, sur ce que vous dites, je dois vous dire mon scepticisme. Premièrement, qui est motivé pour deux raisons différentes. D'une part, en effet, oui, dans tous les cas, c'est à partir de mouvements d'individus, de questionnements, de refus que quelque chose peut bouger. On est bien d'accord, c'est pas contemplatif. Ce genre d'activité. Mais, Ce qui me, dans l'état actuel des choses, me frappe énormément, c'est combien ces actions sont prisonnières du cadre qu'est le contexte. Duquel contexte ça,
c'est ça.
Non, mais non, mais non, mais non, non, parce que justement, la vraie réflexivité, c'est de remarquer qu'il y a un piège. Au lieu de se jeter à pieds joints dedans. C'est là le point. La plupart de ces actions me semblent étonnamment tributaires du cadre de réflexion à l'intérieur duquel, dont elles voudraient s'émanciper. Ça, c'est là où il y a une puissance tout à fait particulière du dispositif de nos sociétés. C'est qu'il a une capacité de persuasion qui va jusqu'à ses adversaires apparents. Donc, et pour le moment, on ne peut pas dire que c'est, y compris sur un point qui est le grand mépris de la réflexion au nom de l'action. Point très important. Parce que si la contestation du capitalisme consiste à réclamer des sous au capitalisme pour profiter de ses bienfaits sans trop subir ses rigueurs, je ne pense pas qu'on pouvait aménager quelques réserves d'Indiens dans les coins, d'ailleurs, pourquoi pas, touristiques, on les visitera, ça sera de la valeur ajoutée comme on n'y avait pas encore pensé, mais ça ne fait pas franchement changer le mode de fonctionnement global. La seule question, c'est cyniquement, il n'y a pas longtemps, puisque vous faisiez allusion à la Grèce et à l'Espagne, un dirigeant financier important en Europe disait, écoutez, mais le problème, c'est simple, c'est que on n'a plus d'argent. Sinon, on aurait payé leurs dettes et on n'en parlerait plus. Et on ne peut pas. Ben oui, ben voilà. Donc, bon, là, il y a une limite de fait, mais où réclame-t-il autre chose que ça? Voilà la question que je me pose.
Ah oui, moi je crois que oui.
Bon, j'espère. J'aimerais vous croire. Pour le moment, j'en ai pas d'attestation absolument convaincante.
On va discuter au café si vous voulez. Mais il n'y a pas surtout si vous voulez, ce que moi je trouve de nouveau dans cette société, dont vous savez très bien ce que je pense.
Hein. Oui, non, mais ça je me.
Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est quand même la revendication d'une liberté de penser par soi-même. Ça veut dire non au dictat, j'ai une position vis-à-vis de la dette, du capitalisme, etc. Je pense que vraiment là, les enjeux sont un peu différents. Et pour la question dont vous posiez, moi je suis d'accord avec vous que les actions de contestation sont piégées par les cadres, mais ça a été toujours comme ça. Je veux dire, on va par brèche, on ne change pas un système en bloc. Ce sont des brèches. Et la brèche sur la nature, je pense qu'elle est très importante. Ça veut dire la conscience que la nature est finie.
Oui, mais est-ce que ces mouvements... Bien sûr, attends, mais je dis pas le contraire. Hein, mais après, le constat, qui est assez communément partagé, Dieu, enfin, en tout cas, dans l'espace européen, c'est déjà quelque chose. Après ça, la question de où sont les nœuds sur lesquels on peut agir, elle est entièrement ouverte. Parce que ce qu'on voit massivement, à partir de là, c'est une démagogie totalement irresponsable et pas une vraie réflexion sur ce qui se passe. C'est ce que je lis. J'attends qu'on me montre le contraire et je l'attends avec impatience. Non, mais c'est pas la question. Les gens qui sont... bien entendu, évidemment que ça se heurte à des intérêts économiques, mais ça, les intérêts économiques en question n'empêchent pas les gens de penser librement et de faire un petit effort d'approfondissement par rapport à des hypothèses du style burlesque, du genre transition énergétique, dont le début du commencement d'une effectivité n'est absolument pas posé. Parce que là, on peut toujours se donner des objectifs totalement irréels, mais sans, je ne constate pas que l'effort de réflexion, par exemple, sur ce thème technique apparemment, même sur ce thème technique, donc apporté, ce qui est frappant, c'est la minceur, et ne parlons pas d'une notion aussi grotesque que celle de développement durable, donc qu'on enseigne aux enfants des écoles et qui est probablement l'une des impostures les plus criantes du monde où nous vivons. C'est-à-dire la même chose un peu autrement.
Quoi.
Non mais ça c'est pas le sujet. Moi je parle des gens dont le métier est de penser. Ils sont libres. Les intérêts économiques ne viennent pas les solliciter pour définir ce qu'ils ont à penser. Ça n'a rien à voir. Je constate pas la mobilisation intellectuelle de la part des gens dont c'est le métier, même éventuellement, pour définir un vrai diagnostic sur les motifs de sur la dynamique dans laquelle nous sommes pris et sur les manières d'en sortir. C'est cette réflexion-là qui fait défaut. Et celle-là, elle est libre. Hein. Les grands Monsanto et les pétroliers américains n'ont rien à dire là-dedans. Ils s'en foutent. C'est pas ça se passe en dehors d'eux. Elle n'existe pas.
L'amélioration de la capacité la capacité énergétique de l'équipement actuel a engendré et doit continuer à engendrer dans les 20 ans à venir beaucoup plus d'économies que le développement des industries des énergies nouvelles, si vous avez dans des proportions considérables. C'est du simple au double, du simple au triple.
Monsieur Rifkin, il existe. Il y a quelqu'un qui pense, je ne suis pas votre ami.
Eh ben, moi, je ne la vois franchement pas.
Les énergies nouvelles représenteraient, d'après leur calcul, de l'ordre de 19% du total énergétique en 2035. Donc c'est pas encore rien. Alors que
mais qu'est-ce que ça représente? Réfléchissez une seconde. Qu'est-ce que ça représente?
Les énergies fossiles représenteraient 80%.
Hein? Qu'est-ce que ça représente? Je veux dire, il y a une disproportion entre la dynamique de la demande et ses offres. Sympathiques, mais marginales pour une très longue durée, qui est béante. Donc voilà, c'est ça le point. Je veux dire,
je protestais contre le fait, j'ai remarqué que les compagnies pétrolières sont des gens qui infusent beaucoup et qui fourniraient également des documents d'une bonne qualité.
Bien sûr.
Ils sont peut-être un peu biaisés à certains égards.
Même pas forcément. Mais oui, mais bien sûr. Mais nous sommes dans une société de la connaissance. C'est un bon exemple. Non, mais bien entendu. C'est ça le point.
Est-ce que, alors, j'aurais une voix du côté d'une réflexion morale? Parce que moi, ce qui me frappe, quand on parle d'événements, par exemple, l'indincivilité, par exemple, moi, je m'intéresse à cette histoire sociale, on ne dit jamais c'était mal, c'était bien. On ne dit plus ça. Vous voyez, c'est-à-dire, est-ce que, en temps de la religion, il y aurait une piste sur une nouvelle façon de penser le bien et le mal? Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, entre nous, je ne crois pas qu'il y a besoin de faire de grands efforts pour penser le bien et le mal. Le problème, ce n'est pas de le penser, c'est de l'énoncer et de le porter collectivement. Ça, c'est une autre paire de... C'est là qu'elle est la difficulté, parce que sur la délimitation, il y a des zones troubles, il y a des lieux complexes. C'est sûr, mais ce n'est pas en soi quelque chose de révolutionnaire. Ça n'appelle pas, à mon avis, d'immenses efforts dans 90% des cas. Il y a 10% de cas litigieux, on est bien d'accord. Il y a même des instances pour ça. Mais la question, c'est une question de, comment dire, là, de mentalité collective. Et de mentalité collective incarnée dans des institutions, dans un discours public. C'est là qu'est le point. Oui, oui. Ben oui, mais là, nous n'y sommes pas non plus. Oui, c'est... N'exagérons pas la portée de cette voix par rapport à ce que représente, mettons, la dynamique de la financiarisation actuelle de l'économie. Je veux dire, un peu de morale là-dedans ne ferait pas de mal, parce qu'il en manque, ça c'est certain, mais je crois que le problème, même en imaginant par exemple tous les opérateurs financiers parfaitement probes, ça ne changerait pas franchement l'étendue du problème et la manière dont ça nourrit une dynamique qui a des conséquences qui dépassent le problème moral. Donc, c'est un aspect intéressant de la vie en société. Ça pourrait changer beaucoup de la vie en société, mais pas du genre de mécanismes fondamentaux qui alimentent la dynamique de nos sociétés. C'est ça le point.
Est-ce que les États-Unis vous semblent dans la même impasse intellectuelle que l'Europe ? Parce que finalement, eux, ils ont su faire coexister hétéronomie et autonomie. Donc ils n'auront pas à restaurer l'hétéronomie parce qu'ils n'en sont jamais sortis.
N'exagérons pas. Non, le cas des États-Unis est effectivement un cas tout à fait étonnant. C'est la grande exception dans le monde où nous sommes, puisque c'est là que se conjuguent, effectivement, pour des raisons parfaitement compréhensibles qui tiennent à l'histoire, une société tout aussi autonome que la nôtre en Europe, mais avec une imbrication très particulière de religion et effectivement de perduration de la structuration hétéronome sur un plan bien précis, qui est précisément la place politique des États-Unis dans le monde. C'est dans l'identité collective que c'est solidifié et c'est en même temps leur point de vulnérabilité majeur au regard du monde où ils sont aujourd'hui. Parce que cette place d'exception des États-Unis est ce que, inexorablement, le mouvement de la mondialisation érode et relativise. Donc, en effet, pour eux, le problème est d'une autre nature que la manière dont le problème se pose aux Européens. Et la première chose que les Européens gagneraient à faire, c'est à mesurer cette différence de leur problème avec le problème américain, au lieu d'y être bêtement asservis comme ils le sont depuis un certain temps. C'est un modèle qu'ils ne peuvent pas reproduire. Et déjà, en serait-il conscient, qu'ils feraient beaucoup moins de bêtises. Mais en même temps, ils ont un avantage, c'est qu'ils échappent à certains des problèmes qui sont en train de rattraper les États-Unis, dont, par exemple, on est en train de s'en apercevoir, le système politique qui nous a été présenté pendant toute une période comme une fontaine de sagesse insurpassable, donne des signes de faiblesse assez inquiétants. Bon, donc ils ont d'autres problèmes, mais ce sont d'autres problèmes, en effet, que les nôtres, avec des problèmes communs.